pour nous stimuler ce matin ?
J'ai choisi deux personnes. Il s'agit de Sarah, femme d'Abraham, et Rahab, la dame qui a recueilli les espions d'Israël au moment où il démarre la conquête de Canaan.
Très bien, bien. Je vais prier pour ce temps de prédication. Seigneur, nous te remercions pour ta parole, nous te remercions de nous l'avoir donnée et nous te remercions parce que tu nous enseignes à travers elle aujourd'hui encore. Et je te prie que tu sois avec nous alors que nous écoutons Philippe comme tu as été avec lui alors qu'il préparait ce qu'il nous disait ce matin. Je te prie au nom de Jésus. Amen.
Quel grand jour! Un grand jour. Ah. Merci. Un grand jour pour notre communauté et un grand jour, bien sûr, pour les 6 personnes qui viennent d'être baptisées. Et un fait ne vous aura pas échappé, et d'ailleurs il a été souligné par Eric, ces 6 personnes, et la 7e aussi que nous baptiserons demain, sont toutes des femmes ou des jeunes filles. Et donc, en ce mois de novembre, nous parcourons dans la Bible la liste de ceux qu'on appelle les héros de la foi. J'ai choisi les 2 femmes qui sont nommément citées. Je veux parler de Sarah et Rahab. Donc, je vous propose aujourd'hui de vous pencher sur leur histoire et ce qui leur vaut d'être citées dans cette liste que nous trouvons dans la Bible, au chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux. Mais avant cela, je vous invite à relire l'introduction de ce chapitre 11, le premier verset qui nous dit « Or la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Gardons ces mots en tête. Et maintenant, lisons donc ce qui concerne Sarah tout d'abord. Un peu plus loin, au verset 11, « C'est aussi par la foi que Sarah elle-même a été rendue capable d'avoir une descendance. Malgré son âge avancé, elle a donné naissance à un enfant, parce qu'elle a cru à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi, d'un seul homme, pourtant déjà marqué par la mort, est né d'une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel, pareil au sable qui est au bord de la mer et qu'on ne peut compter. » Pour la situer brièvement, Sarah est donc l'épouse d'Abraham. Je suppose qu'Abraham, c'est un nom qui vous dit quelque chose. Il n'est pas aussi connu que Michel Drucker, mais on sait grosso modo où il se situait. C'est une figure emblématique du peuple d'Israël, de ceux qu'on appelle les patriarches. Et ce dont on se souvient généralement le mieux à son sujet, c'est que Dieu lui avait fait une promesse qui l'impliquait non seulement lui, mais aussi Sarah, sa femme. Et pas n'importe quelle promesse. Il aurait une descendance, nous venons de le lire, aussi nombreuse que les étoiles du ciel, pareille au sable qui est au bord de la mer et qu'on ne peut compter, ce qui nous est rappelé ici. En soi, ça ne serait pas si extraordinaire si j'oubliais de signaler plusieurs détails importants. La première fois que Dieu commence à mettre ça dans la tête d'Abraham, il a 75 ans. Ah ! Plus grave, parce que, bon, on en a vu d'autres. Plus grave, bien que plus jeune que lui, Sarah a tout de même 65 ans. Pas le top, hein, pour espérer tomber enceinte. Mais plus grave encore, Sarah est stérile. Toute sa vie durant, elle a attendu désespérément de tomber enceinte en vain. Et c'est donc au mari de cette femme-là que Dieu annonce une descendance qu'on ne peut pas compter. Et comme si ça ne suffisait pas, la promesse se renouvelle régulièrement, mais concrètement, rien ne se passe durant 25 ans, près de 25 ans. Et désabusée, elle finit par en rire, mais c'est en rire jaune. Nous trouvons son histoire dans le tout premier livre de la Bible qu'on appelle la Genèse. Je vous invite maintenant à prendre la deuxième figure féminine de notre liste. Il s'agit de Rahab. Et voici ce que nous lisons donc dans cette liste des héros de la foi. C'est par la foi que les murailles de Jéricho sont tombées, après que le peuple en avait fait le tour pendant 7 jours. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, n'est pas morte avec les non-croyants, parce qu'elle a accueilli les espions avec bienveillance. Contrairement à Sarah, que la Bible accompagne tout au long de sa vie de femme mariée avec Abraham, on ne connaît de Rahab guère plus que cet épisode de sa vie qui est décrit dans un autre livre de la Bible qui s'appelle le livre de Josué, où nous est-il dit, elle se prostitue notoirement et accueille des espions d'Israël avec bienveillance. Resituons son histoire dans le temps. Bien des siècles ont passé depuis Sarah et Abraham, et nous sommes à un moment clé de leur descendance, de la descendance de Sarah et Abraham. Le peuple d'Israël, preuve, ce peuple maintenant est nombreux, preuve que la promesse faite à Sarah et Abraham s'est bien réalisée. Israël est donc devenu un peuple nombreux, et il vient frapper aux portes de la terre que Dieu avait promise à Abraham, car sa promesse ne se limitait pas seulement à la descendance, mais il lui attribuait aussi une terre pour s'installer. Seulement, ils ne sont pas les premiers arrivés sur cette terre, et vous pouvez l'imaginer, les habitants qui l'occupent alors ne sont pas spécialement disposés à la leur céder. Et Josué, leur leader d'alors, après qui succède à Moïse, en recherche d'une stratégie, envoie ses forces spéciales explorer le pays. Ces hommes aguerris pour passer inaperçus en terrain hostile se cachent là où défilent pas mal d'hommes de toutes origines sans que personne ne s'en étonne, c'est-à-dire dans la maison d'une prostituée notoire de la ville fortifiée de Jéricho. Une femme donc nommée Rahab. Et c'est plutôt une bonne planque, car la maison donnait aussi sur la muraille extérieure de la ville, et de là, ils pourraient s'enfuir si les choses tournaient mal. Et c'est d'ailleurs ce qui se passe, car malgré les ruses et les précautions qu'ils prennent, leur présence est éventée. C'est ça, dans l'espionnage, au bout d'un moment, on ne sait plus qui sait quoi sur qui. Hein, les films, vous avez remarqué, on s'y perd un peu. Et le roi de la ville fait avertir Rahab que les hommes qu'elle abrite sont des espions hostiles à la ville. Mais contre toute attente, Rahab informe aussitôt, secrètement, les hommes, du moins secrètement, c'est ce qu'ils espèrent, et les fait quitter la ville à l'aide d'une corde depuis sa fenêtre. Mais avant de les laisser partir, elle cherche à passer un pacte avec eux, et en échange de sa vie et de celle de ses proches. Et là, ils sont éberlués d'entendre que la terreur s'est emparée de toute la ville de Jéricho depuis que ses habitants ont appris comment le Dieu des Hébreux a délivré Israël de l'esclavage et anéanti toute l'armée d'Égypte 40 ans plus tôt. Cet événement avait stupéfié toute la région, car l'Égypte était une des grandes puissances dominantes de l'époque. Ce pacte qu'elle leur propose est-il une ruse? Est-elle un agent double? Pour qui roule-t-elle vraiment? Alors prudemment, ils ne se laissent pas griser par ses propos et lui demandent, en échange de respecter leur promesse de lui laisser la vie sauve à elle et à ses proches, ils lui demandent de manifester sa décision irrévocable par un signal convenu entre eux. Elle devra attacher à sa fenêtre un cordon de fil rouge dès leur retour avec l'armée d'Israël. Un cordon qui sera un signe pour les combattants afin qu'ils épargnent toutes les personnes que sa maison abritera. Et cette histoire et la suite se trouvent donc dans la Bible, dans l'Ancien Testament, comme nous l'avons dit, dans le livre de Josué. Je vous propose un court instant de faire un arrêt sur image sur ces deux situations, au point où nous en sommes rendus. Dans les deux cas, une promesse a été faite. Et maintenant, comment vont réagir ces deux femmes dans cette attente que la promesse se réalise? Sur la réaction de Rahab, on sait assez peu de choses, mais si ce n'est un détail, il y a un détail qui a tout de même son importance. alors qu'il était convenu qu'elle devrait attacher à sa fenêtre le cordon rouge dès l'arrivée, à l'arrivée seulement des armées d'Israël, elle s'acquitte de son geste, de ce geste, dès leur départ. Et sur un plan purement stratégique, ce n'est pas très prudent. Il peut se passer encore pas mal de temps jusqu'à leur arrivée, si tant est qu'ils arrivent un jour. Leur prudence commanderait d'attendre. La prudence commanderait d'attendre. Et pourquoi pas de profiter du temps de cette attente pour monter un plan B. Mais non. Rahab a choisi son camp. Elle a choisi d'associer sa vie à celle du peuple de Dieu. Avant que les espions ne la quittent, elle dit « C'est l'Éternel, votre Dieu, qui est en haut dans le ciel et en bas sur la terre. » Et à ses yeux, une telle confession ne peut qu'être suivie d'un engagement formel et définitif. Elle sait alors que sa vie d'avant, menée sans ce Dieu qu'elle vient de rencontrer, appartient au passé. Elle veut partager la connaissance de ce Dieu avec ses proches et les faire entrer avec elle dans le peuple de Dieu. Pour ça, Sarah, c'est très différent. Déjà, la temporalité est différente. Alors que pour Rahab, tout se joue en quelques jours, maximum quelques semaines. Ce sont 25 longues années qui s'écoulent entre la première annonce de la promesse et sa réalisation. Et cette attente sera peuplée d'événements éprouvants qui alterneront avec de longues périodes de vie ordinaire où il ne se passe rien et régulièrement ponctuées de renouvellements de la promesse. Pas du tout la même épreuve de foi qui est imposée aux deux femmes. Sarah doit vivre chaque jour avec une promesse dont la réalisation paraît de plus en plus improbable. Alors, elle vit des hauts et des bas. Comme le jour où, n'en pouvant plus d'attendre, elle envoie son mari dans le lit de sa servante en se disant que c'est sans doute par là que sortira la descendance qui doit résulter de la promesse. N'accablons pas Sarah, car Abraham n'est pas exempt de tout reproche. Dans cette affaire, après tout, c'est à lui que la promesse était adressée, et il avait toute liberté de refuser ce coup de pouce au destin donné, soi-disant, pour la bonne cause. Puis il y a cette manie qu'il a eue par deux fois de la faire passer pour sa sœur, afin d'échapper à la justice des hommes puissants, à la concupiscence qu'ils avaient à l'égard de Sarah, quitte à fermer les yeux, à ne pas regarder trop près ce qui adviendra d'elle. Héritière de la promesse, oui d'accord, mais héritière aussi de pas mal de turpitude avec cette fâcheuse tendance qu'ont trop souvent les hommes à considérer les femmes comme leur propriété. Une promesse claire faite à ces deux femmes est dans les deux cas une promesse de vie. Mais pour l'une comme pour l'autre, la promesse est mise à l'épreuve et de manière aussi très différente. Et au départ, déjà, une chose essentielle les sépare, les différencie. Sarah est personnellement et intimement liée à la nature de la promesse, et pour cause, elle est celle qui donnera la vie au premier maillon de la descendance promise à Abraham. Mais ce n'est pas pour autant que la promesse est une évidence pour elle. C'est une chose que de parcourir la vie, sa vie et celle de son mari au fil des pages de la Bible quand on connaît la suite, mais c'en est une autre de vivre ce cheminement de l'intérieur. Il y a de quoi provoquer le questionnement, instiller le doute. Vu de l'intérieur, rien ne leur semble aller dans le sens espéré. Ils vieillissent tous les deux de jour en jour, même si Sarah semble conserver un charme irrésistible. Une fois l'enfant tant attendu arrivé, elle dit « Dieu m'a donné un sujet de rire, et tous ceux qui l'apprendront riront de moi. Qui aurait osé dire à Abraham, Sarah allaitera des enfants, et pourtant je lui ai donné un fils dans sa vieillesse ?» Non, malgré une promesse qui lui était personnellement destinée et plusieurs fois renouvelée, la saisir et se l'approprier ne tombait pas sous le sens. tout comme naître dans une famille chrétienne ne fait pas d'office un croyant. Il appartient à chacun de saisir et de s'approprier la foi qui nous est proposée pour accomplir ce bout de chemin avec Dieu que personne ne peut faire à notre place. Et à l'opposé, Rahab représente typiquement la personne étrangère exclue de toute promesse. Elle est étrangère de naissance au peuple d'Israël, au peuple de Dieu. Prostituée de surcroît, elle est au plus bas de l'échelle des valeurs. Et pourtant, elle saisit et s'approprie avec foi une promesse qui, a priori, n'était pas pour elle. Et tout en elle la porte à désirer faire partie du peuple de Dieu. Par ses paroles et par ses actes, elle met en application, sans la connaître, la phrase d'introduction de notre texte, celle que nous avons lue au tout début, « La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Personne ne peut être trop éloigné de Dieu qui ne soit irrécupérable à ses yeux. On peut imaginer le torrent d'insultes, de mépris qu'ont pu déverser sur elle les habitants de Jéricho, opportunistes, vendus, traîtres, collabos. Et bien sûr, sans citer tous les noms d'oiseaux relatifs à son activité, Rahab redoute probablement tout cela. Mais elle redoute encore plus d'être éloignée, pour toujours, de ce que le Dieu éternel est véritable, qu'elle ne connaît que de réputation, mais qu'il impressionne. Une évidence s'impose à ses yeux. Elle veut s'approcher de lui là où il se manifeste, au sein du peuple qu'il a choisi pour le représenter, et non plus adorer de faux dieux, sortis de l'imagination des hommes, et souvent représentés par des statuettes devant lesquelles on se prosternait, parfois à grand renfort de sacrifices humains. Et c'est ainsi qu'on la retrouve à côté de Sarah, dans cette même liste de ceux et celles qu'on appelle les héros de la foi. Pour la petite histoire, les Hébreux tiendront parole, bien sûr, l'épargneront et l'intégreront, à tel point qu'elle sera même mentionnée des siècles plus tard dans la généalogie de Jésus, au même titre que Ruth, une autre étrangère qui a fait une démarche comparable. Cette Ruth, à sa belle-mère juive, elle avait déclaré « Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu ». Et donc nos deux femmes, Sarah et Rahab, illustrent également deux types d'épreuves auxquelles nous serons confrontés tôt ou tard si nous nous approchons de Jésus par la foi. La semaine dernière, nous avons évoqué les chrétiens persécutés pour leur foi, et les ados ont mis en évidence deux modes de persécution. Une persécution marteau, qui est soudaine, violente, et une persécution consistant en restrictions, vexations prolongées et sans cesse accrues. Dans la même idée, nous avons avec Rahab l'image d'une épreuve de foi que j'appellerais l'épreuve couperet. Vous sentez clairement un appel qui vient de Dieu, même si vous ne savez pas encore exactement où il vous mène. Le temps est venu de faire un choix, comme en ont témoigné nos baptisés. Votre décision marque une rupture dans votre vie. L'engagement sur un chemin nouveau, dont on ne connaît pas tout le tracé, mais sur lequel on entre dans la présence de Dieu et où il devient lui-même notre destination finale. Et puis il y a ce que j'appelle l'épreuve de foi sablier, la foi vécue au jour le jour, celle que nous pouvons développer, cultiver dans la recherche d'une intimité avec Dieu. Comme pour Sarah et pour tout le monde, plus ou moins, cette foi connaît des hauts et des bas, des victoires et des échecs. Comme pour Sarah, elle est à vivre avec d'autres croyants, eux aussi héritiers de la promesse de la vie éternelle et eux aussi sujets aux hauts et aux bas de leur propre foi. Comme pour Sarah, elle est faite de promesses renouvelées, à découvrir dans la parole de Dieu. Elle est faite de paroles renouvelées, à découvrir dans la parole de Dieu. Elle est faite de patience, d'attente, mais aussi de délivrance et d'accomplissement soudain et inespéré. On peut être né dans une famille chrétienne et avoir été mis en contact avec Dieu très tôt, comme Sarah. On peut avoir été au plus bas de l'échelle des valeurs de sa société, de sa famille, comme Rahab. On peut se considérer trop éloigné de l'idée qu'on se fait sur l'exigence de Dieu envers ses enfants. On peut se considérer aussi comme une même personne avec la même idée qu'on se fait de la justice de Dieu. Ou tout simplement ne pas avoir d'idée précise sur ces questions et ne s'être jamais vraiment penché dessus jusqu'à présent. Qui aurait osé dire à Abraham, dit Sarah, qui aurait osé dire à Abraham, Sarah allaitera des enfants ? Pas Sarah, bien sûr, même si là est tout ce qu'il aurait comblé. Elle est assez lucide sur elle-même pour le reconnaître. Elle dit, « Dieu m'a donné une occasion de rire, et tous ceux qui la prendront riront à mon sujet. » Et il y a probablement dans cette parole le regret de ne pas avoir assez pris Dieu au sérieux. C'était trop beau pour être vrai. Et je suis certain que parmi les personnes qui ont témoigné ce matin, on en trouverait plusieurs de qui on aurait pu dire, il n'y a pas si longtemps, qui aurait dit qu'elle deviendrait une chrétienne engagée. Qui aurait dit qu'elle se ferait baptiser un jour ? Qui aurait dit qu'à l'instar de Rahab, elle déclarerait « C'est l'Éternel qui est Dieu en haut dans le ciel et en bas sur la terre. » Parvenir à la vie éternelle par la foi en Jésus-Christ, serait-ce trop beau pour être vrai ? Ouais. Comment savoir sans s'interroger ? Comment savoir sans s'approcher ? Comment savoir sans se renseigner auprès de ceux-là même qui témoignent de cette foi ? Comment savoir sans tremper un tout petit peu, un tant soit peu ses lèvres dans l'eau de cette source dont il se désaltère ? Comment savoir sans demander à Dieu de manifester dans nos vies, de se manifester dans nos vies et de les éclairer de sa lumière et de son amour. Et donc pour terminer, c'est ce que je vous propose de faire maintenant. Dans une prière, nous allons incliner nos têtes et je vais adresser à Dieu une prière en notre nom à tous. Seigneur éternel, si tu es le Dieu vivant qui règne en haut dans le ciel et en bas sur la terre, alors tu sais tout de moi. Tu sais d'où je viens, tu connais ma personnalité et tout mon passé. Tu sais ce qui me rapproche de toi et tu sais ce qui m'en éloigne. Moi, je sais si peu de choses sur toi. Mais je me rends compte que j'ai besoin de toi plus que je ne le pensais, et surtout de mieux te connaître. Aide-moi à saisir et à m'approprier toutes tes promesses. J'ai besoin de ta lumière, éclaire-moi. J'ai besoin de découvrir ton amour, révèle-le-moi. J'ai besoin de te rencontrer, manifeste-toi. Amen.